Renaud Alberni, La ruée vers l'or en Transvaal. Barnato mâchouille un imposant cigare avec satisfaction. Y a pas, la vie est belle. Depuis son réveil, aux alentours de midi, dans les bras de la belle Paula, il n'a pas perdu son temps. Tout d'abord, après un plantureux déjeuner, il a arpenté Camberley. Ensuite, le soir venu, il a passé des gants de boxe et a remporté 6 combats d'affilée. Enfin, passant du ring à la scène, il a interprété le roi Lear dans une version acrobatique que n'aurait pas désavoué le grand Shakespeare lui-même. En somme, une journée bien ordinaire, tout entière consacrée à faire fortune. Quand il passe en revue son emploi du temps, Barnato ne s'attarde pas sur la belle Paula. De toute façon, il y reviendra sous peu. Il saute même son repas et passe directement à Camberley. Il n'y a pas une ville au monde qu'il aime autant que Camberley. Et ceci pour une bonne et simple raison. Il n'y a pas, en cette année de 1873, un gisement de diamants plus important au monde. Ah, si vous n'aimez pas les diamants, et si vous n'êtes pas prêt à tout pour devenir riche, inutile de venir à Camberley. Ne faites pas comme Barnato, ne sautez pas dans un steamer qui, en 20 jours, vous emmène de Southampton au Cap. À peine débarqué, ne cherchez pas une place dans un char à bœufs qui, en 975 km de piste défoncée, vous emmènera au péril de votre vie jusqu'à Camberley, aux confins de la colonie du Cap et de l'État libre d'Orange en Afrique du Sud. Voilà seulement quelques semaines que Barnato est arrivé dans cette cité minière. Avant lui, depuis qu'en juillet 1870, des diamants ont été trouvés sur la ferme des frères de Beers, des dizaines de milliers d'hommes se sont rués sur Camberley, armés de pelles, de pioches et de tamis, pour arracher au sol toute sa richesse. Barnato, lui, ne possédait pour tout bagage qu'une boîte de cigares et environ 35 livres anglaises. Il a tout d'abord cru que cela ne lui suffirait pas. On ne peut rien imaginer de plus hostile que Camberley. Pas un brin d'herbe à 10 km à la ronde, le premier arbre à 20. Plantés à la va-vite dans la poussière, des tentes de toile, des baraques en bois, des abris de fortune. À perte de vue, creusés pierre à pierre dans le désert, des cratères. Des petits, des grands, d'immenses cratères lisses et plats, mais toujours plus profonds. Chapeautés de hauts échafaudages de bois, aux poulies grinçantes, ils s'alignent à l'infini, reliés entre eux par des passages qui vont en se rétrécissant et sont posés sur le vide. Tout a d'ailleurs fini par s'effondrer peu de temps avant que Barnato n'arrive à Camberley. D'une certaine manière, il tombait juste à point. C'était une bonne aubaine, en effet, que des prospecteurs soient ruinés ou incapables de moderniser leur exploitation, que les diamants soient vendus à vil prix et que des concessions soient abandonnées. Toutefois, Barnato a préféré investir dans une salle de boxe. C'est tout de même moins épuisant de gagner sa vie en mettant son poing dans la figure de ses contemporains qu'en s'échinant avec une pioche. Ceci étant, Barnato n'économise ni sa peine ni sa force. Les chercheurs de diamants et les nègres sont certes des adversaires redoutables, mais les plus coriaces sont les Boers. Il n'est pas aisé de faire mettre un genou à terre à ces obstinées montagnes de muscles. Vous avez beau les bombarder d'uppercuts, à assommer un bœuf, ils continuent d'avancer vers vous en distribuant des crochets qui vous arrache la tête. Les Boers sont la haine têtue, descendants des premiers immigrés, hollandais pour la plupart, ils détestent les nègres. Ils détestent les Anglais qui ont aboli l'esclavage et annexé Kimberley depuis qu'on y a découvert les diamants. Ils détestent aussi les prospecteurs, cette racaille immigrée sans religion qui s'est abattue sur leur pays et bouleverse leur mode de vie. Bernardo crache par terre. Ce soir encore, il a dû jouer le roi Lear avec un œil au beurre noir et le nez tout sanguinolent. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à aller faire soigner ses plaies et ses bosses par la belle Paula. Dans la nuit, le grand campement tout illuminé retentit de bagarres et d'accordéons. Là-bas, du côté des cages où sont enfermés les nègres, on entend les chiens aboyer. Sous un ciel parfaitement étoilé, Barnato refait ses comptes. Bientôt, il pourra acheter une concession. La vie est belle. Barnato se rhabille en sifflotant. D'une main experte, la belle Paula pique un œillet rouge à la boutonnière de sa redingote. Très élégant, Barnato se plante devant l'un des miroirs du bordel, ajuste un séduisant sourire et coiffe un haut de forme. Impeccable. Il a tout à fait l'air d'un gentleman. D'ailleurs, il est un véritable gentleman. Depuis peu, il est vrai, mais n'empêche, en ce mois d'avril 1888, il fait désormais partie des membres du très sélect Kimberley Club, qui accueille l'élite de la bourgeoisie et des diamantaires de la ville. Barnato n'est pas parvenu à cette honorable situation du jour au lendemain. Tout d'abord, il a dû commencer par faire fortune. Ensuite, il a dû se faire admettre dans la bonne société. Le plus compliqué n'a pas été de faire fortune. Non, pour devenir riche, il suffit d'acheter et de vendre. On achète à la baisse, on vend à la hausse et, pourvu qu'on respecte le bon tempo, on engrange les bénéfices. Au petit jeu des spéculations, Barnato est l'un des plus forts de tout Kimberley. Doté d'un flair hors du commun, d'un bagou étourdissant et d'un culot monstre, il a le chic pour dénicher les bons filons et se débarrasser des parcelles exsangues. Tout comme, après 1000 combines, il se débarrasse de ses concurrents, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un de véritablement sérieux. À ce stade, Barnato a les moyens de méditer un peu son coup. Bien sûr, il pèse son poids de diamant, mais les gens comme il faut de Kimberley le méprisent souverainement du haut de leur bonne éducation. Son dernier adversaire, Cecil Rhodes, est certes légèrement moins milliardaire que lui, mais il est néanmoins le plus éminent représentant de la gentry locale. Grand, maigre, voûté, sombre, rigoriste, abhorrant le bruit, dédaignant les femmes, il est l'exact opposé de Barnato. Petit, trapu, rondouillard et fêtard impénitent. De plus, élu au Parlement, Cecil Rhodes est habité par un grand dessein politique. Il n'entend pas quitter ce monde avant d'avoir vu le drapeau britannique flotter sur tout le continent africain pour la plus grande gloire de sa gracieuse majesté, la reine d'Angleterre. Barnato n'a rien contre cet audacieux projet, mais avant de rêver à la gloire de son pays, il a pris pour habitude de penser à ses intérêts. Si son combat contre Cecil Rhodes pouvait se régler au point, il ne fait nul doute qu'il le remporterait sur l'heure. Malheureusement, Barnato est en quête d'une respectabilité qui lui interdit de tels usages. Financièrement, l'issue de l'empoignade est beaucoup moins certaine, d'autant que Cecil Rhodes a su convaincre les Rothschild et quelques autres du même acabit de le soutenir. Plutôt que de risquer de tout perdre, Barnato se décide à voir s'il n'aurait pas quelque chose à gagner à s'entendre avec Cecil Rhodes. Celui-ci lui propose de fusionner leurs deux affaires dans une nouvelle société, la De Beers Consolidated Mines Limited. Oui, pourquoi pas, c'est à voir. Mais avant tout, qu'est-ce que ça lui rapporte à lui, Barnato? Tout d'abord, un chèque de 5 millions de livres, puis un poste de gouverneur à vie dans la De Beers Consolidated. Le parrainage de Cecil Rhodes pour accéder au fameux Camberley Club et, en prime, son soutien pour l'élection au Parlement. Banco, c'est tout vu, on signe là. Et c'est ainsi que Barnato est entré dans le grand monde. Maintenant, comme toujours très à l'aise dans son rôle, il se prépare sous l'œil attentif de la belle Paula à partir en tournée électorale. Pour lui, le succès ne fait aucun doute. Il songe vaguement au grand discours qu'il va prononcer, mais bien vite chasse ses futilités de sa tête pour des pensées autrement plus riches. Depuis quelque temps, Barnato s'intéresse à l'or du Transvaal. Là-bas, à environ 500 km au nord-est de Camberley, une grande ruée vers l'or a entraîné en septembre 1886 la fondation de Johannesburg, une ville champion où, depuis 18 mois, les fortunes se font et se défont. Barnato se dit qu'il ne serait pas idiot d'aller y faire un tour. En attendant, son carrosse frappé à ses armes attend devant le lupanar. Le temps d'une petite claque sur les fesses généreuses de la belle Paula, il saute dans son équipage. Suivi de laquais en grand uniforme rouge, précédé d'un joueur de cor de chasse, il part séduire ses électeurs. De l'or et des diamants, plein les yeux. En ce mois d'août 1888, Barnato patauge parmi les flaques d'eau sans se départir de son sourire. Johannesburg est un véritable bourbier. Quelle bonne idée il a eue de venir là! À première vue, Johannesburg ressemble à Camberley. Pas un arbre, une terre inculte et rocailleuse, percée de trous, de mines et de galeries. Une terre dévastée, fracassé, écrasé pour en extraire la moindre paillette d'or. Là-dessus, s'est installée une ville, faite de toiles et de peu de choses. Les bureaux de justice, de police et d'administration sont abrités par une tente. Commissioner Street, la rue élégante, se distingue des autres par ses baraques faites de plaques de tôle. Il n'y a qu'un seul bâtiment en dur, le premier à avoir été construit, la bourse. Une nouvelle bourse a d'ailleurs été mise en chantier, encore plus grande, plus belle, plus solide. L'or du Transvaal mérite bien un tel égard. Hormis ce temple, les prospecteurs et les spéculateurs disposent pour leur plaisir de plus de 200 bars et maisons de tolérance. Leur réconfort vaut bien ce prix-là, car à vrai dire, pour nombre d'entre eux, les affaires ne vont pas si bien. La pelle et la pioche ne suffisent plus pour arracher l'or au filon de Johannesburg. Il faut creuser sans arrêt plus profondément pour atteindre le précieux minerai enfermé dans des gangues de quartz toujours plus durs. Certains puits atteignent 2000 mètres de profondeur et tous les outils se brisent sur des rocs qui refusent de céder les pépites qu'ils renferment. C'est le moment d'investir et de s'équiper de machines. Tous n'en ont pas les moyens. Barnato, si. Et dès le premier jour, il s'emploie à le faire savoir. Il pénètre dans Johannesburg précédé d'une fanfare et d'une ribambelle de serviteurs portant livrée. Sous les hurrahs et les fleurs, il se lance dans un ardent discours. « Je suis convaincu que votre ville deviendra le Gibraltar financier de l'Afrique du Sud. » Puis, sous des tonnerres d'applaudissements, il sort son chéquier et commence à spéculer. Quelques Boers le regardent faire d'un air dégoûté. Nombreux sont ceux qui ont préféré vendre leur ferme plutôt que de subir l'invasion de dizaines de milliers d'immigrés attirés par les reflets de l'or. Barnato ne comprend pas bien les Boers. Voilà des gens qui se prennent pour le peuple élu par Dieu, appelés par la divine providence à aller de place en place comme pionniers de la civilisation, chargés de la tâche grandiose de conquérir l'Afrique pour le roi Jésus. Se disant en route pour la terre promise, ils regardent la colonie du Cap comme étant l'Égypte, le roi d'Angleterre comme le pharaon, et les Noirs comme les descendants des Cananéens, qui, selon la Bible, occupaient la terre promise par Dieu aux Israélites. Farouchement accrochés à une foi totale en leur destinée, les Boers n'ont pour unique distraction que la lecture des Écritures saintes. Pour le reste, ils dévoluent à leurs femmes un triptyque bien simple. Kinder, Kirche, Küche. Enfants, église, cuisine. Armés de ce solide principe et de fusils tout aussi redoutables, ils ont arraché à la couronne britannique et à la terre des Zoulous, une république indépendante où ils considèrent les prospecteurs étrangers comme des citoyens de seconde zone. Ceux-là, du moins, ont la chance d'être considérés comme quelque chose. Les indigènes, les nègres, les sauvages, les barbares ne peuvent pas en dire autant. De toute façon, on ne leur demande rien. La constitution du Transvaal ne reconnaît aucune égalité entre blancs et individus de couleur. Un point, c'est tout. Barnato n'est pas venu à Johannesburg pour changer la mentalité des Boers. Lui, tant que l'article 76 de la loi sur les mines précisera que aucun homme de couleur, ni aucun hindou ou chinois ne pourra posséder une licence de mineur, ni être attaché d'une manière quelconque à l'exploitation des mines d'or, si ce n'est comme ouvrier ou au service d'un blanc. Eh bien, tant que ce temps durera, ses intérêts seront bien protégés et cela lui suffit. La nuit est tombée sur Johannesburg. L'âme en paix, Barnato cherche maintenant un bordel accueillant où passer la nuit. Des lumières, une tente, des filles, et parmi celles-ci, une perle, la pulpeuse Rebecca. Décidément, la vie est belle. Barnato a toujours le don de trouver le meilleur filon. Note, né à Londres en 1852, Barnato se suicida, nous dit Robert Lacour Gaillet, en se jetant à la mer du pont d'un transatlantique qui le conduisait en Angleterre pour le 60e anniversaire de la reine Victoria en 1897. Il avait été, selon le Larousse, ruiné par un krach auparavant. Il existe une biographie concernant Barnato intitulée « Barnato, roi de l'or », écrit par un certain R. Lewinson et édité à Paris en 1937. Malheureusement, je ne l'ai pas lu, et Barnato valait peut-être mieux, en réalité, que dans cette histoire. Cecil Rhodes, quant à lui, devint premier ministre du Cap et donna son nom à la Rhodésie. C'est à Kimberley que fut trouvée l'étoile de l'Afrique, un diamant de 83,5 carats. On peut voir dans cette ville le Grand Trou, un cratère de 1000 mètres de diamètre et de 1600 mètres de profondeur, d'où furent extraites 2,7 tonnes de diamants avant sa fermeture en 1914. Johannesburg fut annexée par les Anglais en 1900, avant qu'en 1910 la colonie du Cap, celle de Natal et les deux républiques Boers du Transvaal et de l'Orange ne forment l'Union sud-africaine. Depuis, Johannesburg est restée la capitale économique du pays. Ainsi se termine la biographie de Barnato, écrite par Renaud Alberni, intitulée « La ruée vers l'or du Transvaal ».